Vous écoutez On lit pour vous.
Avec le désespoir commence le véritable optimisme. Un texte de Francis Peutsch paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir. Avec le désespoir commence le véritable optimisme, celui de l'homme qui n'attend rien, qui sait qu'il n'a aucun droit et que rien ne lui est dû, qui se réjouit de compter sur soi seul et d'agir seul pour le bien de tous. Jean-Paul Sartre. Je ne suis plus un jeune idéaliste. J'ai bien bourlingué du haut de ma quarantaine d'années. Je ne suis plus ce jeune professionnel, un tantinet exalté, qui croyait que le bon projet, la bonne intervention, le tout bien formulé, bien attaché, allait convaincre le monde de tourner autrement. Cela fait maintenant plus de 15 ans que j'œuvre, d'une manière ou d'une autre, sur la première ligne psychosociale ou dans sa périphérie. C'est un choix professionnel, moral, en totale concordance avec mes valeurs et qui me rend fier. Je ne changerai rien à ma vie professionnelle. Je suis, à mes yeux, au bon endroit. En effet, 15 ans à côtoyer des personnes magnifiques, mais surtout un lot immense de souffrances, souvent invisibles à l'œil non averti. C'est un métier exigeant, parfois ingrat, mais j'y puise, au fil de mes actions, une force particulière, grave et tranquille, nourri par la confiance que l'humain, dans toute sa complexité et même dans l'adversité, peut toujours se redresser et avancer. Pas toujours, pas souvent, rarement seul, mais tout de même parfois transcender ses écueils et prendre une direction nouvelle. Je vois, jour après jour, ce que les plans et tableaux de bord gouvernementaux ne montrent pas. Je vois les détresses sans cases, les espoirs qui se replient en silence, les gens qui tiennent bon malgré l'absurde. Je travaille auprès de ceux qu'on oublie toujours en premier et qu'on invite toujours en dernier. Je suis organisateur communautaire, éducateur, intervenant, bref, un artisan de ce tissu fragile qu'on appelle solidarité. Et plus j'avance, plus cette citation de Sartre résonne en moi. Elle m'habite, elle m'alimente dans les moments creux et devant une paupérisation sociale claire, ambiante, pesante et, selon moi, organisée. Car oui, il faut être clair, au niveau sociopolitique, je n'attends plus rien qui viendra d'en haut. Je ne crois plus aux promesses programmées. Je ne crois plus que le bon sens l'emporte naturellement. Je ne crois plus que les hautes sphères comprennent ce que signifie « tenir debout sans filet ». Je ne crois plus à la reconnaissance, ni à la gratitude institutionnelle. Mais je crois à l'acte juste. Je crois au choix d'agir, même seul. Je crois à la dignité de ceux qui ne réclament rien et qui, pourtant, donnent tout. Je crois au courage de celles et ceux qui œuvrent chaque jour à maintenir la lumière dans des couloirs et des cœurs que plus personne ne visite. C'est un désespoir actif, oui. Un désespoir qui n'est pas défaite, mais lucidité. Et cette lucidité permet un optimisme bien plus profond que tous les slogans du moment. Un optimisme sans illusion, mais chargé d'humanité. Celui qui se réjouit de ce qu'il peut encore faire. Celui qui se passe de permission, celui qui agit sans spectateur, sans récompense, sans hashtag. Cet optimisme-là, d'une teinte plus sombre, certes, mais authentique, peut être lentement contagieux. Il ne vend rien. Il ne séduit pas. Il se transmet par la force tranquille de ceux qui ne fuient pas, qui regardent en face, qui tendent la main, qui bâtissent malgré tout. Il est peut-être temps que ce regard-là remonte jusqu'aux sphères de décision. Peut-être que cette posture, celle de l'homme ou la femme qui n'attend plus rien, est aujourd'hui la seule qui vaille. Car attendre encore que les choses changent magiquement, d'en haut, en mode Deus ex machina, c'est retarder l'inévitable. Nous n'avons que nous. Ce n'est pas un cri de repli. C'est une déclaration de maturité. Je n'attends plus que le monde devienne juste. Je le rends un peu plus vivable autour de moi, chaque jour, chaque geste. Et cela suffit pour continuer. Cela suffit pour nourrir un feu. Je n'ai aucun droit. Rien ne m'est dû. Mais je suis encore là. Et tant que je serai là, je me tiendrai debout pour ceux qui peinent à s'élever. Peut-être que ce serait suffisant déjà que les décideurs comprennent cela, qu'ils cessent de nous parler comme à des rêveurs à recadrer, qu'ils entendent que ce que nous faisons ne repose pas sur l'espoir naïf, mais sur une volonté froide, patiente, indéracinable. Nous ne sommes pas cyniques, nous sommes debout dans le réel. Et malgré tout, malgré ceux qui gouvernent horriblement, nous agissons. Vous qui tirez les ficelles du pouvoir depuis vos tours d'ivoire, sachez que l'indifférence face à la détresse humaine n'est pas une stratégie durable, mais une condamnation à l'oubli. Tant que vous resterez sourd aux cris des invisibles, vous creuserez vous-même le fossé qui vous sépare de la justice, de l'humanité et de l'avenir, même de la société que vous prétendez gouverner. La véritable puissance réside dans la capacité à entendre, à comprendre et à agir avec compassion, non dans la froideur de la gestion distante. Il est temps de redescendre parmi ceux que vous oubliez, car c'est là que se trouve la vraie force de tout changement et, possiblement, votre seule planche de salut. C'était « Avec le désespoir commence le véritable optimisme ». Un texte de Francis Peutsch, paru le 28 juillet 2025 dans Le Devoir.
Les jeunes anglophones et francophones n'apprennent pas la même histoire. Un texte de Marianne Despelleteaux, paru le 27 juin 2025 dans L'Eau vive. Une note en bas de page est le sort réservé à l'histoire francophone en milieu minoritaire dans le curriculum anglophone de certaines provinces. Même s'ils vivent dans les mêmes quartiers, les jeunes francophones et anglophones n'apprennent pas toujours la même version de l'histoire canadienne. La question de la francophonie est reléguée à une ou deux notes en bas de page dans le curriculum anglophone, illustre la professeure agrégée de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada, Stéphanie Chouinard. Celle-ci effectue présentement, avec la professeure adjointe d'études politiques de l'Université d'Ottawa, Jennifer Wallner, une comparaison des curriculums francophones et anglophones d'histoire de l'Ontario. Par exemple, le règlement 17, c'est une évidence pour les franco-ontariens que c'est un moment fort de l'identité franco-ontarienne, dit Stéphanie Chouinard. Chez les jeunes anglophones en Ontario, le règlement 17 est une note en bas de page. On n'en parle presque pas. Les résultats de l'analyse sont pour le moment préliminaires, mais Stéphanie Chouinard remarque déjà qu'au sortir des écoles ontariennes, les franco-ontariens et les anglo-ontariens ont une vision diamétralement différente de ce que ça veut dire d'être ontarien. Selon elle, cette différence pose des questions sérieuses sur la perception qu'ont ces groupes linguistiques les uns des autres, ainsi que sur la compréhension qu'ont les anglophones lorsque leurs voisins francophones descendent dans la rue pour manifester. Aucune obligation. Marie-Hélène Brunet, professeure agrégée de didactique des sciences humaines et sociales à l'Université d'Ottawa, et Raphaël Gagny, professeur adjoint à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval, ont comparé les curriculums francophones et anglophones en histoire pour les élèves de la 10e année de l'Ontario. Résultat, la francophonie est absente des attentes dans le curriculum anglophone. La francophonie, en particulier ontarienne, est pourtant bien présente dans les attentes du curriculum en français. Comme l'expliquent les chercheurs, les attentes sont obligatoires et évaluées chez l'élève. La francophonie a beau se trouver ailleurs dans le programme en anglais, rien n'oblige le personnel enseignant à aborder le sujet. Environ 80% des deux curriculums est du contenu partagé, estiment les chercheurs. Les 20% restants figurent surtout dans les attentes. Si les attentes contenues dans le programme anglophone restent muettes sur la perspective francophone, il existe une exception, quand on parle des Québécois. La francophonie réduite au Québec. Aux yeux des anglophones, la francophonie se résume souvent à la belle province et à son histoire, explique le duo de chercheurs. Le Québec va généralement aussi être présenté comme homogène et comme présentant une seule pensée, les séparatistes, ajoute Marie-Hélène Brunet. Raphaël Gagny a étudié le phénomène en Alberta, où le curriculum est le même en anglais et en français. Des francophones et des autochtones ont participé à sa conception. Ça a fait son œuvre, dit-il. Car, lorsqu'une réforme entamée en 2019 par le gouvernement albertain de Jason Kenney menaçait de retirer des perspectives francophones, il y a eu des contestations, se rappelle Raphaël Gagny. Mais rien n'est parfait. Enseignées en anglais, les perspectives francophones sont souvent réduites au Québec, remarque le chercheur. On parle de la Constitution? Ben, c'est la nuit des longs couteaux, c'est René Lévesque, donne-t-il en exemple. Peu sur la francophonie hors Québec. Les enseignants font des choix. Ce qu'il y a dans le programme, ce n'est pas forcément ce qui est enseigné en classe, reconnaît Raphaël Gagny. Les enseignants ont, pour tout dire, une certaine marge de manœuvre. C'était « Les jeunes anglophones et francophones n'apprennent pas la même histoire », un texte de Marianne Despelleteau paru le 27 juin 2025 dans L'Eau vive.
Le rêve américain a été survendu. Un texte de Christophe Chauvagnetz paru le 23 juillet 2025 dans La Presse. La planète Terre ne peut plus soutenir notre mode de vie basé sur la croissance et il va falloir rapidement remettre en question l'association entre bonheur et consommation, écrit l'auteur, professeur de sciences politiques au Cégep John Abbott. Nous y sommes de nouveau, une semaine plus tôt qu'en 2025, mais quelques jours plus tard qu'en 2026. Le jour du dépassement, cette date symbolique qui marque le moment où l'humanité a épuisé les ressources naturelles que la Terre peut régénérer en un an, tombe le 24 juillet en 2025. En 2024, cette date était survenue le 1er août et l'année de la dernière Coupe Stanley du Canadien, celle-ci avait eu lieu le 26 octobre. La conclusion des scientifiques est sans équivoque, notre consommation de ressources, forêts, océans, sols, etc., dépasse de plus en plus la capacité de notre planète à les renouveler. Cela signifie que notre mode de vie est écologiquement déficitaire. Pour qu'un équilibre soit atteint, il faudrait que le jour du dépassement tombe le 31 décembre, ce qui indiquerait que l'humanité vit dans les limites des capacités de la biosphère. C'est arrivé pour la dernière fois en 1972 et depuis lors, nous creusons une dette environnementale qui hypothèque notre avenir. Voler les ressources des autres. Cette date du 24 juillet 2025 concerne le dépassement collectif des ressources utilisées par les quelque 8,1 milliards d'individus qui peuplent notre Terre. Mais c'est en examinant la date spécifique de ce dépassement dans chaque pays que l'on peut mieux comprendre la nature du problème. Celle-ci est arrivée le 6 février au Qatar, le 13 mars aux États-Unis, le 26 mars au Canada et le 19 avril en France. Les pays occidentaux et les autres économies avancées ont épuisé leurs ressources au plus tard au printemps. Pour le reste de l'année, ils volent, pour ainsi dire, les ressources destinées aux autres. Mais si les pays les plus pauvres dépassent leurs limites en été, voire seulement à l'automne, seul l'Uruguay, dont le jour du dépassement n'arrivera pas avant le 17 décembre, semble plus ou moins respecter les limites imposées par Gaïa. Une conclusion s'impose, le rêve américain basé sur toujours plus de consommation, c'est-à-dire toujours plus de saccage et de pillage de nos ressources communes, a été survendu. Notre Terre ne peut tout simplement pas survivre à ce mode de vie basé sur une croissance économique perpétuelle. Collectivement, l'humanité exploite l'équivalent des ressources d'environ deux Terres. Mais si tous les habitants de la planète consommaient comme les Nord-Américains, il nous faudrait cinq Terres pour soutenir notre frénésie. Ne nous méprenons pas, notre mode de vie occidental n'est possible que parce que l'écrasante majorité de l'humanité n'y a pas accès. Le jour du dépassement est devenu notre ligne de fracture. Chaque jour après cette date, nous vivons aux dépens des autres peuples, des autres espèces et surtout des autres générations qui devront apprendre à survivre sur une planète dépouillée des ressources essentielles à la vie. Et dire qu'Elon Musk pense qu'on pourrait sans problème accueillir 80 milliards d'humains sur Terre et qu'un autre million pourrait s'établir sur Mars d'ici 2050. Imaginez une prospérité durable et juste. Face aux pénuries et à la raréfaction de l'eau, des terres cultivables et des ressources vitales, des millions de personnes sont déjà en mouvement. Dans certaines régions du globe, rester n'est tout simplement plus une option. Traverser des frontières, franchir des mers et des déserts devient pour beaucoup une question de survie. En 2022, près de 32 millions de personnes ont été déplacées par des catastrophes naturelles, la montée des eaux, la désertification ou la perte de ressources essentielles. D'ici 2050, entre 250 millions et 1 milliard d'individus pourraient être contraints de quitter leur foyer, poussés par la dégradation des écosystèmes, les conflits liés à l'eau ou à la terre et l'effondrement des conditions de vie. Le phénomène est d'ampleur planétaire et rien ne pourra durablement empêcher ces mouvements de population. Ces damnés iront là où la vie est encore tenable, là où il reste un peu d'espoir, d'eau, de nourriture et d'air respirable. À défaut de trouver rapidement quatre autres planètes similaires à notre Terre et prêtes à l'exploitation, nous devrons apprendre à consommer moins et mieux. Malheureusement, l'opulence relative dans laquelle vivent la plupart des Occidentaux repose sur un système qui confond croissance économique et prospérité, accumulation matérielle et bonheur, technologie et salut. Mais alors, que faire? Voter pour un parti qui promet de verdir la croissance sans jamais remettre en cause le dogme de la surconsommation? Continuer à croire qu'un geste écolo relayé sur Instagram compensera nos voyages en avion? Ou alors, ouvrir les yeux. Admettre que notre modèle économique, qui repose sur un cycle extraction-production-consommation sans limite, dans un monde aux limites très réelles, n'est plus viable. Et si, comme le suggère le philosophe Roman Krisnarik, on décidait enfin d'être de bons ancêtres? Si on pensait une société où l'abondance ne se mesure plus en biens, mais en liens? Une société sobre, digne, juste et durable. Une société qui choisirait de vivre dans les limites planétaires plutôt que d'agoniser dans leur négation. Sinon, nous arriverons à un point de non-retour, celui où nous aurons épuisé nos ressources dès la première heure du 1er janvier. C'était « Le rêve américain a été survendu », un texte de Christophe Chouanietz, paru le 23 juillet 2025 dans La Presse.
Sommes-nous trop compétitifs? Un texte d'Olivia Lévy, paru le 20 juillet 2025 dans La Presse. La culture de la compétition et de la performance dans notre société ne date pas d'hier, mais elle peut parfois être à double tranchant. Dans notre société axée sur la performance, peut-on encore courir ou jardiner pour le simple plaisir, sans rivaliser avec les autres ni montrer nos exploits? Sommes-nous toujours dans un modèle de compétition en tout temps? On a hérité ça des Grecs. Ça fait penser à la culture de la compétition en Grèce antique, la culture de l'agon, qui est une culture de la compétition sportive, intellectuelle, artistique. L'esprit de compétition se trouve à l'origine de la grandeur de la culture grecque, car la compétition pousse à l'excellence, au progrès et à l'innovation, croit Isabelle Chouinard, professeure de philosophie à l'UQAM. Selon elle, il y a clairement des origines culturelles lointaines à toujours vouloir se mesurer à autrui et rivaliser avec les autres. Il y a de nombreux concours dans notre société, des concours sportifs, littéraires, gastronomiques, philosophiques, animaliers, les Oscars, les Félix, les Gémeaux, etc. Remporter un trophée ou une médaille, ça envoie le message qu'il faut être le meilleur, quel que soit le domaine, et on reproduit cela dans notre vie personnelle. Attention, si on est toujours dans la compétition, même dans nos loisirs, on peut avoir un problème de confiance et d'estime de soi, souligne le psychiatre Frédéric Fanget. Il est toutefois normal, selon lui, de se prouver des choses à soi-même. Et on va tous, à un moment donné, dans notre vie, prouver qu'on vaut quelque chose. Ce n'est alors pas pathologique. Frédéric Fanget, psychiatre, nous dit « Si vous vous mettez à courir à 40 ou à 50 ans pour prouver que votre corps est encore capable, vous êtes dans une performance par rapport à vous-même, à condition que l'effort que vous faites reste un plaisir. » Ce qui compte à ses yeux, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses et de ne pas viser l'inatteignable. La performance, si c'est dans nos capacités, c'est bien pour notre santé mentale, mais au-delà de nos compétences, on va être dans la souffrance. L'aspect social. Jocelyne Planche, 52 ans, participe à une ou deux courses organisées par année. Elle estime ne pas être une personne compétitive dans la vie, mais pour le sport, le sentiment de dépassement de soi entre en jeu. Lors d'une compétition, tu as des sensations que tu n'as jamais eues auparavant, la vitesse, ton corps en mouvement, tes muscles en action. C'est incroyable, tu défies les limites de ton corps, tu le pousses au maximum et la sensation est extrême, estime-t-elle. Ce n'est pas comme un petit jogging du samedi. Il y a un sentiment de communauté et de connexion très fort lors de ces événements, ajoute-t-elle. Les gens avec qui tu cours deviennent des amis. Des groupes se créent, on se fixe des objectifs et on se retrouve en compétition. Il ne faut pas oublier l'attrait des réseaux sociaux. On veut montrer nos exploits, ce qui crée une culture de performance qu'on retrouve dans d'autres sphères de nos vies. Par exemple, des parents sont dans la compétition et souhaitent que leur enfant soit toujours le meilleur, explique Fanny Valois-Nadeau, professeure en études culturelles et médiatiques à l'Université TELUC. Cette mise en scène de la performance est omniprésente. On aime recevoir des « likes » et être encouragé. Il y a aussi le phénomène des défis sportifs. Des communautés se créent via les réseaux sociaux. « On court pour la bonne cause », dit Mme Valois-Nadeau, on va participer à des collectes de fonds et à un défi physique. C'est une tendance qu'on observe de manière croissante depuis 15 ans. La professeure évoque aussi la culture matérielle qui s'est développée à travers la mise en marché d'équipements de sport à la fine pointe. Car on ne va pas courir en vieux jogging. On s'équipe. Leggings, shorts, chaussures. Ce qui accroît le côté compétitif. Avec l'apparition des applications et des montres intelligentes, on va encore plus loin. Les données sont quantifiées sur notre course et ces outils ont un effet aussi sur notre esprit de compétition. C'est très contemporain et cela concerne les gens les plus favorisés de la société. Il y a un statut de classe sociale qui vient avec la volonté de performer, précise Fanny Valois-Nadeau. Conditions favorables. On peut toutefois se soustraire au modèle dominant de la performance, selon le psychiatre Frédéric Fanget. Vous n'êtes pas obligé de vous soumettre aux dictats sociaux. On ne vous impose pas le modèle de performance, mais on y répond. Il faudrait éviter de pratiquer un loisir pour épater les autres. On ne se met pas à jardiner avec l'objectif d'avoir le plus beau jardin du monde et le souhait qu'il soit admiré par tous. On jardine pour notre plaisir, estime l'auteur de La confiance en soi, comment croire en vous. Tout le monde ne prend évidemment pas le chemin de la compétition, mais les conditions y sont favorables. Il y en a pour qui courir avec de la musique est suffisant. Mais les outils sont là pour nous pousser vers la compétition, observe Fanny Valois-Nadeau. Même chez les enfants, le simple fait de jouer pour le plaisir devient de plus en plus difficile dans les sports d'équipe. Les fédérations sportives commencent à en prendre conscience et perdent beaucoup de jeunes qui auraient aimé continuer de pratiquer un sport sans être dans la compétition. Nous sommes poussés à la compétition par défaut, car c'est profondément ancré dans notre culture, rappelle Isabelle Chouinard. Même dans les débats démocratiques, les arguments sont mis en compétition. On vise l'excellence, et c'est par le jugement des autres qu'on va atteindre la victoire, la gloire et les honneurs. Et socialement, c'est ce qu'on valorise. C'était « Sommes-nous trop compétitifs ?», un texte d'Olivia Lévy, paru le 20 juillet 2025 dans la presse.